Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Que Dieu nous bénisse. Et je voudrais prendre un sujet qui revient sans cesse lors de nos rassemblements au culte le dimanche matin. J'ai eu à cœur, depuis quelque temps, de remettre l'enseignement, la doctrine de la Sainte Cène. Ce qui peut être très intéressant, vous savez que Jésus a institué deux ordres, c'est-à-dire le baptême d'eau. Alors vous l'avez entendu souvent, hein, le message doctrinal du baptême d'eau, parce qu'à chaque fois qu'il y a un baptême, on y revient sous un aspect, sous un autre. Mais la Sainte Cène, nous la partageons tous les dimanches. Et quelle est sa signification? Quel est le sens que nous pouvons donner, que ça ne devienne pas une routine, un rite? Ce n'est pas une cérémonie, ce n'est pas... En effet, eh bien là, nous le faisons sans véritablement mesurer, eh bien toute l'importance du repas de Sainte-Cène. C'est important. Dans bien des religions chrétiennes, alors on l'a transformé en rite, en tradition. Et je pense qu'il est bon ce matin que nous revenions sur le sens profond de ce que Jésus a institué quand il dit ceci: « Faites cela en mémoire de moi ». Il ne faut pas vous tromper, ça n'a rien à voir avec les enseignements religieux du christianisme traditionnel, comme le baptême d'ailleurs. Alors, on va lire trois textes ce matin. C'est important, et je pense que vous allez découvrir ou redécouvrir des aspects du repas de Sainte-Cène inattendus. Le premier texte que nous allons prendre, il se trouve dans l'évangile de Luc, alors c'est aussi dans Matthieu et également dans Marc, mais j'ai choisi Luc parce qu'il est peut-être un petit peu plus nourri dans l'explication et il va nous servir eh bien, de support en quelque sorte. Alors, Luc, évangile de Luc, chapitre 22, verset 13. Alors, il s'agit des disciples qui suivent Jésus, et il est dit simplement, « Ils, les disciples, s'en allèrent, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent le repas de Pâques. » Retenez bien le mot Pâques. « Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à ce que son sang soit pleinement réalisé dans le royaume de Dieu, jusqu'à ce qu'il soit accompli dans votre traduction, si vous voulez bien, vous le permettez. Il saisit alors une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-en le contenu entre vous, car je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. Puis il prit du pain et, après avoir remercié Dieu, rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il leur donna de même la coupe après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu qui garantie par mon sang qui est versé pour vous. On va prendre un autre texte, si vous voulez bien. Celui-ci, nous le trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 11, excusez-moi. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur, c'est Paul qui parle, hein, l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir remercié Dieu, rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur et boit de sa coupe de façon indigne se rendra coupable de péché envers le corps et le sang de Jésus. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Car si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, il attire aussi un jugement sur lui-même. Dernière lecture dans Jean, chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas de son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang possède la vie éternelle, je le relèverai, je le ressusciterai, je le relèverai de la mort au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. » L'interprétation de ce texte dernier, celui de Jean, a suscité un véritable scandale. Parce que, vous le lirez par la suite, comment quelqu'un peut dire « Vous mangez de mon corps et vous buvez de mon sang », c'est de l'anthropophagie, hein. Mais Jésus parlait d'autre chose. Et c'est ça ce qui est important, parce que jusqu'ici, on n'a pas sacrifié quelqu'un pour le manger. Ça vous fait sourire, hein? Mais c'est d'un autre ordre, c'est d'une autre dimension. Laissez-moi vous dire d'abord que la Sainte Cène, je ne confonds pas avec l'Eucharistie traditionnelle de la religion. Je parle de la Sainte Cène, biblique et évangélique. Donc la Sainte Cène a été instaurée par Jésus lui-même lors de la dernière Pâque et son dernier repas avec les disciples. On le sait, je l'ai lu en introduction la première fois. L'Église que nous sommes, l'Église selon la pensée de l'Évangile, l'Église a à perpétuer le repas de Sainte Cène comme un signe de communion avec le Christ, qui est notre Sauveur et Seigneur, communion les uns avec les autres, on ne prend pas la Sainte Cène tout seul, autrement ça n'aurait pas de sens, comme une célébration, et qui manifeste l'action de grâce, l'adoration envers l'amour que Dieu nous a manifesté pour nous sauver dans la personne de Jésus et dans lequel nous croyons. C'est ça le sens de notre rendez-vous que nous avons tous les dimanches, et que nous partageons. La scène est à la fois commémorative, elle est instructive et elle est prophétique. Retenez bien cela. C'est un signe de reconnaissance lorsque nous prenons le pain et le vin, un signe de reconnaissance de la grâce de Dieu qu'il nous a faite. Je dis bien grâce, de son pardon, de sa rédemption, le prix payé par Jésus à la croix, de ce que Jésus a été fait victime expiatoire pour nous libérer de nos fautes et de nos péchés, et de son incarnation. Jésus est venu, Dieu, le Père, Dieu s'est fait homme dans la personne de Christ, c'est ce que l'on appelle la kénose en théologie, il a pris un corps comme nous, il a suivi la filière naturelle, bébé, ensuite devenant un homme, il est venu spécialement pour que nous puissions, par son sacrifice, croire à sa rédemption et à l'expiation de nos fautes. Il a donné sa vie. C'est la parabole de Jésus, du bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. C'est sa valeur symbolique qui est mise en avant dans ce que nous avons vu. Le pain, qui est l'emblème, le symbole de son corps, et le vin, qui est le symbole de son sang. C'est simple. La Sainte Cène, pour nous les chrétiens de l'Évangile, dont l'autorité finalement de notre foi repose sur ce qui est écrit, la Sainte Cène n'est pas facultative. Elle n'est pas optionnelle. Un jour oui, un jour non. Non, c'est quelque chose finalement qui relève, comme le baptême adulte, baptême que nous connaissons par immersion, c'est un ordre que le Seigneur a dit. Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la Sainte Cène, c'est exactement la même chose. Les divers appellations que nous trouvons dans la Bible de la Sainte Cène, c'est la table du Seigneur, on peut le dire comme ça. C'est le repas du Seigneur, c'est la fraction du pain et du vin dans le livre des Actes. La fréquence de la Sainte Cène, alors ça dépend des communautés, excusez-moi, et des églises. La fréquence, Jésus dit, à chaque fois que vous vous réunissez. Donc on pourrait prendre la Sainte Cène à chaque fois que les chrétiens se réunissent. Un mercredi soir, un vendredi soir ou un dimanche. Bon, on a déterminé que le dimanche était la réunion d'édification, la réunion où nous nous trouvions ensemble. Donc le camp, excusez-moi, hein, c'est il y a quelque chose qui me gêne, qui me gêne parce que j'en ai toussé pas avant de prêcher, et maintenant que je prêche, je tousse. Excusez-moi, hein. Priez pour moi, s'il vous plaît. Parce que c'est important. Et la fréquence, c'est à chaque fois que vous vous réunissez, naturellement. La forme de la Sainte Cène. Au travers des trois évangélistes que nous connaissons, Matthieu, Marc et Luc, il est bien question, évidemment, de deux éléments. Le pain et le vin. Le vin est appelé dans la Bible, merci, le fruit de la vigne, qui peut être du jus de fruit, ou qui peut être du vin fermenté naturellement, qui est partagé et consommé lors d'un repas. Alors vous savez que dans l'Église primitive, c'était au cours d'une agape fraternelle que l'on prenait la Sainte Cène. On pourrait le faire lors de nos agapes fraternelles, lorsque nous nous rassemblons, vous y avez déjà assisté. Hein, après le culte où on se met tous ensemble autour d'une table et puis on passe une heure, deux heures ensemble, on pourrait prendre la Sainte Cène à ce moment-là, ça ne changerait rien finalement. C'est comme ça que ça se faisait dans l'Église première. Et nous voyons que c'était partagé et consommé à ce moment-là, dans ces circonstances, et pris avec action de grâce, toujours. C'est-à-dire de dire merci Seigneur. Non pas pour la nourriture, toute la nourriture qui est sur cette table, mais particulièrement pour l'acte que nous partageons ensemble, de partager eh bien, un peu de pain et un peu de vin ou de jus de fruits, peu importe. Laissez-moi vous dire également la valeur historique de la Sainte Cène. La valeur historique, il nous est dit la Pâque. Et c'est une référence par rapport au baptême qui est institué finalement que dans le Nouveau Testament, la Sainte Cène, on pourrait dire, a ses origines et ses racines dans la Pâque juive. Vous savez, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, après le passage de la mer Rouge, Moïse a reçu ce commandement de Dieu, et bien voilà, hein, vous célébrerez la Pâque en l'honneur de votre libération, en l'honneur de votre la fin de votre servitude et de votre esclavage, donc la Pâque juive, et le mot Pâque veut dire épargner, veut dire passer outre. Là où les Égyptiens ont été condamnés, nous nous apercevons que les Juifs, les Hébreux, libérés, vont être épargnés, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de premiers-nés qui vont disparaître. Et c'est véritablement le sens que nous avons également à travers, eh bien, le repas de Sainte Cène. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, nous pouvons dire, Dieu m'a épargné du jugement. Je ne suis plus jugé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous comprenez cela, hein? Ça, c'est important. Donc, c'est une préfiguration. La Pâque juive est une préfiguration. On pourrait dire, selon les termes du livre des Hébreux, c'était l'ombre des choses à venir. Simplement, c'était la Pâque juive n'est qu'un petit coin du voile qui se lève sur la grande réalité, finalement, du sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha, tout simplement. Dans la Pâque juive, il y avait un agneau qui était immolé, pur et sans tache, d'un an, c'est-à-dire un jeune agneau. Et c'est un petit peu, finalement, ce qui nous est rappelé, eh bien, à travers ce sacrifice qu'Abraham a fait lorsqu'il a immolé, enfin, son fils Isaac à Morija. Oui. Morija, c'était un bûcher. La croix, c'était véritablement, eh bien, le supplice de Jésus. Mais là où Dieu a arrêté Abraham de mettre finalement, eh bien là, à exécution l'ordre qu'il avait reçu, puisqu'il nous est dit que Abraham, son bras a été retenu et qu'il n'a pas pu sacrifier son fils. Dieu lui a dit, ne lui fais pas de mal à ton fils. Mais des siècles et des siècles plus tard, ce Dieu Père dans le ciel, lui n'a pas arrêté. Jésus est allé jusqu'à la mort. Il a été sacrifié. L'agneau immolé, Morija. Et c'est la valeur typologique. C'est des mots, hein. Mais c'est des mots qui veulent dire quelque chose quand on fait une étude. La valeur typologique, l'histoire d'Isaac, par exemple. Isaac était le type, la préfiguration du Christ qui allait mourir. Alors qu'Isaac, lui, l'a vécu, en quelque sorte. Il y a la valeur prophétique, également, de la Sainte Cène. Parce que, nous le lisons et nous allons le revoir dans notre étude, c'est l'annonce à chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, entre nous, et pour tous ceux qui nous rejoignent, même s'ils ne sont pas finalement eh bien là baptisés et engagés, c'est l'annonce que Jésus revient, et qu'il revient bientôt. C'est-à-dire que Jésus est passé de l'humiliation du sacrifice le plus ignoble qui soit, à mourir, lui qui était juste et innocent, sur une croix, l'humiliation, la honte, à la gloire du ciel, parce que quand Jésus va revenir, il va revenir dans la gloire. Et nous verrons sa gloire. C'est-à-dire qu'il est venu d'abord sur la terre, et il est monté au ciel par la résurrection, et il revient du ciel pour remettre, finalement, dans ce monde de désordre, dans ce monde de confusion, dans ce monde de mal, dans ce monde d'enfer, on pourrait dire, eh bien, les choses, en quelque sorte, dans l'ordre. On a parlé de l'instauration de la Sainte Cène il y a un instant. On a parlé de la forme. Je voudrais vous donner la signification maintenant de ce que nous enseigne eh bien, la parole de Dieu. La signification, c'est que la Sainte Cène, rappelle la mort de Jésus à la croix et le salut en son nom. Nul autre n'a été crucifié. L'adoration des religions qui se porte sur des saints et des saintes, qui se porte sur Marie, qui se porte sur ceci et cela, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le message de la Sainte Cène et le message de l'Évangile. Je dis bien, nous rappelle la mort de Jésus à la croix et le salut en son nom. On le sait, puisqu'on l'a lu le soir où Jésus prend la scène avec ses disciples, ce même Jésus leur demande de le faire en mémoire de lui. Faites ceci en mémoire de moi, tout simplement. C'est un acte de mémoire que nous faisons. C'est pas un rituel, c'est pas une tradition, c'est pas une cérémonie, ce n'est pas tout ce que vous voudrez y ajouter. Ce pain qui est rompu, les frères qui sont devant nous et qui rompt le pain, ce pain qui est rompu, ce vin qui est versé dans la coupe, alors ce sont des petits verres pour que ça soit beaucoup plus fonctionnel aujourd'hui, hein. Moi, j'ai connu un temps pendant des années, dans les églises et même des grandes églises, où nous avions plusieurs coupes. Mais voilà, hein, plusieurs coupes, parce que bon, il y avait beaucoup de monde. Mais c'était toujours revenir pour faire le, revenir pour recharger la coupe, etc. Parce que bon, voilà, c'était partagé entre nous. Tout cela nous rappelle que le corps de Jésus a été brisé, le pain cassé, pain qui est rompu, et que son sang a coulé pour le pardon de nos péchés. On ne peut pas faire les choses comme ça en disant, voilà, on fait les choses parce que c'est l'habitude. On ne les fait pas parce que c'est la routine. Et si un jour, à un moment ou un autre, je vous disais, ben ce matin, on va pas prendre la Sainte Cène. Ça vous choquerait peut-être, hein, en disant, ben pourtant, on a l'habitude. Eh ben justement, c'est cette habitude. Et si on le fait, faut que l'habitude soit suivie d'un sens et d'une signification. Autrement, ça ne sert à rien. Ce n'est que une vaine tradition qui n'a pas... Et faut faire attention de ne pas tomber dans la routine des choses dans nos églises, hein, c'est important, hein, ça c'est important. Pour un chrétien, cette signification lui rappelle toute la profondeur, lui rappelle la passion et l'amour que Dieu a manifesté à ses enfants en les rachetant à un grand prix. C'est le prix de la mort de quelqu'un. Comme dans l'ancienne alliance, on sacrifiait un agneau, et il perdait la vie, hein. Il était égorgé, oh, c'était quelque chose de... Ouais, c'est... Et à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, on oublie tout ça, parce que c'est quand même des choses sanglantes. Hein. Ça n'existe plus aujourd'hui. Depuis que Jésus est venu, ça n'existe plus. Hein. Ça devrait parler aux Juifs d'aujourd'hui. Hein. Ça n'existe plus. Ben, c'était quelque chose qui était quand même assez sanglant. Hein. Alors, le grand prix, c'est que quelqu'un a donné sa vie pour nous. D'ailleurs, c'est écrit dans l'Épître aux Romains, est-ce qu'un juste donnerait sa vie pour sauver les autres? Même injuste. Hein? Injuste, pas un injuste. Hein, vous comprenez ce que ça veut dire. Pour le non-croyant qui assiste à nos réunions de culte, peut-être il y en a ce matin, et nous leur souhaitons la bienvenue, c'est vrai. Dieu vous adresse, pour vous qui êtes invités au milieu de nous, vous adresse le plus beau message qui soit. Ouais. Le plus beau message qui soit, celui de l'Évangile. Parce que l'Évangile nous parle d'amour et non pas de jugement. Ça, faut insister. Et il nous parle de grâce et non de restriction, de commandements implacables, etc., etc. Et celui qui vient, qui se trouve dans une réunion publique, parce qu'elles sont publiques, elles sont ouvertes à tous. Nos cultes sont ouverts à tous, faut pas l'oublier. Hein. C'est pas seulement entre soi, on est bien, on est en famille, etc., etc. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Alors, Dieu offre la possibilité à nos amis, à nos visiteurs, à ce moment-là aussi d'être pardonnés et purifiés de leurs péchés, réconciliés avec Dieu et restaurés dans sa puissance en disant, ben moi maintenant je veux m'engager. Et le jour, et on en reparlera tout à l'heure, le jour où je serai prêt, parce que Dieu est toujours prêt à vous accueillir, eh bien je partagerai avec des hommes, des femmes que je vais faire la connaissance, que je ne connaissais pas avant, mais je partagerai finalement le repas. Et c'est une belle annonce d'invitation à s'approcher de Dieu. Deuxième point en ce qui concerne la signification. La scène est le signe d'une nouvelle alliance. Ancienne alliance, nouvelle alliance, telle que Jésus l'a enseignée dans le chapitre que nous avons lu tout à l'heure. En prenant ce repas, l'Église se rappelle qu'en Christ, elle ne vit plus dans l'Ancien Testament, dans l'ancienne économie. Moi, je bénis le Seigneur d'être né après la mort et la résurrection de Jésus. Parce que je peux vous dire, avant, c'était rigoureux. Hein. Les 10 commandements implacables, à travers là l'effort, l'œuvre à faire pour plaire à Dieu, aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Nous vivons dans la nouvelle alliance. Il y a l'Ancien Testament. Et si l'Ancien Testament, on l'appelle ancien, c'est qu'il était vraiment ancien. Il est vraiment ancien. On l'a remplacé par un nouveau testament qui nous parle de grâce, qui nous parle de pardon, et qui nous parle que Dieu a tout accompli pour que nous soyons sauvés et que nous puissions finalement être appelés ses fils et ses filles et que nous faisons partie d'une famille nouvelle, la famille de Dieu. L'ancienne économie, c'était la loi. Et on ne, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un mot français, on ne badinait pas avec la loi. Quand il est dit à un moment donné que celui qui pêche contre un seul des 10 commandements, c'est comme s'il avait péché pour tous les autres. De quoi vous décourager, hein? Et de vous casser les bras. Non, la loi, naturellement, l'Ancien Testament. Le Seigneur a introduit une nouvelle alliance. Ça n'a pas fait plaisir aux Juifs de son époque. Hein. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Pourquoi vous changez les choses? Alors que Jésus a dit, mais je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour la spiritualiser. Sermon sur la montagne. Donc, une nouvelle alliance, et une alliance qui est parfaite et qui est éternelle, parce que l'ancienne alliance, elle était temporaire, elle était temporelle, et elle était imparfaite, puisqu'il fallait toujours faire des sacrifices. La Sainte Cène est une nourriture spirituelle, telle que Jésus nous l'enseigne, encore, dans ce que finalement, nous avons lu dans Jean, par exemple. Il dira ceci. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Nous avons la promesse, lorsque nous prenons le repas de Sainte-Cène d'une manière très consciente, responsable, c'est que nous avons l'assurance que le dernier jour, lorsqu'il arrivera, eh bien, nous serons ressuscités. Nous ressusciterons. Nous le sommes déjà par la nouvelle naissance, mais en espérance. Et ça, c'est quelque chose qui est quelque chose de glorieux, hein. Je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas des anthropophages, hein. C'est symbolique, tout simplement. Elle est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. À chaque fois que nous venons dans le contexte d'un culte, à chaque fois que nous venons, mais c'est encore un lien qui se rapproche de plus en plus, une certitude, un renouvellement de fidélité, d'alliance, d'attachement à la personne de Jésus, à travers le repas de Sainte-Cène. C'est pour ça qu'il ne faut pas se priver de venir dans les cultes. C'est pour ça qu'autant que nous puissions le faire, que nous en prenions cette bonne habitude. Alors bien sûr, il y a quelquefois d'autres contraintes qui font que, bon ben voilà, on peut travailler, on peut être malade et toutes sortes de choses. Mais je me dis qu'à chaque fois, nous ne nous privons pas de venir, parce qu'à ce moment-là, il y a cette parole. Eh bien, il demeure en moi et je demeure en lui. C'est un ressourcement. C'est quelque chose qui est très fort. Par la prise de ces éléments de la Sainte-Cène, le pain et le vin, le croyant qui est né de nouveau, on y reviendra à ça, hein, eh bien là, se nourrit de l'œuvre du Christ. Il se nourrit de son exemple, et c'est souvent rapporté par le prédicateur qui enseigne finalement la vie de Jésus, hein, souvent dans les études que nous faisons, dans les messages de culte, les messages d'édification. Donc, on se rappelle son exemple, on se rappelle sa personne, et ses commandements et ses promesses. Quand un pasteur prêche au culte, je dis bien au culte, le matin, le dimanche matin, il n'a pas à raconter n'importe quelle histoire. Il reste sur la parole, se servant de l'Ancien Testament pour faire finalement épanouir le Nouveau Testament. Et c'est important, on ne fait pas de social ici, on ne fait pas de politique, on ne fait pas de religieux. En citant des noms d'un homme qui ou des hommes qui auraient fait ceci et cela, on ne parle que de Jésus. Tout est centré sur Jésus et les personnages peut-être qui ont été des préfigurations de Jésus. C'est la personne de Christ. Il peut arriver que nous ayons assisté à des cultes religieux de « vous pensez ce que je pense ?» où on parle d'hommes, on parle de prétendus saints, saintes, qui ont fait des exploits, qui ont fait ceci et cela, dans le cadre, finalement, de cette religion. Mais où est Jésus dans cette affaire? Quand enfin, d'une sépulture, où on prie pour l'évêque, on prie pour le pape, on prie pour ceci et cela, écoutez, mes frères et sœurs, on n'est plus dans l'évangile. On est dans un contexte qui est tout à fait antiscripturaire dans sa totalité, Ancien Testament et Nouveau Testament. Donc, on est disciple à ce moment-là. Un disciple, c'est celui qui écoute, qui est au pied de Jésus et qui écoute et qui n'écoute que Jésus, qui prend sa parole. Quelle révélation! La Sainte-Cène est le symbole de l'unité de l'Église. Ah! On en reparlera d'ici quelques instants, mais je voudrais donner quelques bribes. La Bible rappelle que l'Église, qu'à l'Église, il n'y a qu'un seul pain, c'est citation de Paul, hein, c'est pour moi qui l'invente, hein. Et nous sommes plusieurs, un seul pain et nous sommes plusieurs, et ce qui donne que nous sommes un seul corps. Nous sommes unis les uns les autres. On vient de différents horizons, nous avons peut-être différentes éducations, nous avons eu. Nous venons peut-être de différentes religions, mais nous sommes qu'un seul corps en Christ. Il n'y en a pas 36, hein. Paul le soulignera d'une autre manière d'ailleurs, hein. Quand nous partageons le repas de Sainte-Cène, cela nous permet d'entrer en nous-mêmes et de considérer que nous faisons partie de pas n'importe quel club ou syndicat ou confédération ou fédération, mais que nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes de la même famille. Nous portons pas le même nom patronyme, mais nous avons un nom, nous sommes chrétiens en Jésus-Christ. Je vois que vous vous retrouvez. Bien sûr. La Sainte Seine, et je l'ai déjà entrevue il y a un instant, annonce le retour glorieux du Seigneur. Je vous en ai parlé. Selon Corinthiens, chapitre 11, il est dit ceci, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. » Chaque fois que nous prenons la coupe, nous annonçons la mort du Seigneur. Il est mort! Il est mort pour les hommes du monde entier. Il est mort pour ceux qui croient qu'il est mort pour eux. Il est mort pour moi. Alors vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, Jésus est venu et paraît-il qu'il revient. Jésus revient. C'est une des grandes vérités, finalement, de l'Évangile. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient. La scène nous encourage à garder notre espérance sur notre vocation céleste. Nous vivrons éternellement. Pas sur la terre comme le disent les témoins de Jéhovah. Non, mais nous vivons éternellement dans le ciel, dans la gloire de Dieu. Et cela doit susciter, nous chantons des cantiques par rapport à cela. Nous chantons que nous sommes heureux parce que Jésus nous a sauvés et que maintenant, eh bien, il n'y aura rien à voir de l'autre côté avec ce que nous connaissons sur la terre. Les souffrances, il essuiera toutes larmes, il n'y a mort n'existera plus, le mal n'existera plus, et nous serons véritablement dans la, ce que l'on peut dire, la félicité céleste. Et le repas de Sainte-Seine nous le montre. Et pour que nous puissions arriver à cette dimension céleste, Jésus revient nous chercher. C'est vrai qu'il vient juger le monde, comme du temps de Noé, mais il vient nous chercher, nous. C'est ce qu'on appelle la première phase du retour de Jésus-Christ, où nous serons emportés en un clin d'œil, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Potassez votre Bible! Si vous voulez des renseignements, venez me voir! Je connais pas tout! Hein? C'est extraordinaire! C'est de la théologie que l'on fait ce matin. Mais pourtant, ce sont les bases essentielles. Finalement, eh bien là, l'enlèvement de l'Église, de son Église, ce que l'on appelle les rachetés, ceux qui ont été baptisés, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, eh bien, nous passerons l'éternité dans sa présence. Oui, dans sa présence. Alors Jésus revient. La Sainte-Seine fait écho aussi aux paraboles de Jésus. Vous savez, le festin des noces, avec un nouvel habit. Sanctification, régénération, toutes sortes de choses. On en parle souvent, Jésus en parle souvent dans ses paraboles. Hein. Et puis, ça fait appel aux noces de l'agneau. Parce que, moi je voudrais quand même vous dire que dans l'Apocalypse, il y a un beau texte. Hein. Est-ce que vous aimez aller aux noces? Non pas faire la noce, mais aller aux noces. Eh bien écoutez ce texte, parce que là il nous réjouit, et c'est à travers le Sainte-Seine que nous avons cette perspective. Dans Apocalypse, chapitre 19, versets 6 à 9, il est dit cette parole. « Car le Seigneur notre Dieu tout-puissant a établi son règne. Réjouissons-nous et soyons heureux, rendons-lui la gloire. Car le moment des noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. » Qui est l'épouse? C'est l'Église. Oui, nous sommes l'épouse de Christ. On lui a donné un vêtement fait de fin lin, pur et brillant. Le tissu de lin représente les actions justes du peuple de Dieu, c'est la foi. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont les paroles véritables de Dieu. Mes frères et sœurs, on va aller tous aux noces de l'agneau, et nous serons l'épouse. Parce que Jésus-Christ est l'époux. Qu'est-ce que ça va être de l'autre côté? Vous vous rendez compte? Le repas? Le festin? Non, ça c'est tout à fait matérialiste comme pensée, ça sera une autre dimension où nous verrons Dieu dans sa splendeur, dans sa magnificence. Je crois qu'il n'y a pas de mots, les paroles sont des paroles ineffables, c'est la vérité de Dieu, nous l'avons lu tout à l'heure. Mais nous le savons et nous devons nous réjouir alors on devrait éclater de louanges et d'adoration le dimanche matin. Ça vous donne envie? Bon, alors entretenez l'envie. Hein. Ouais. Maintenant, j'aimerais donner quelques informations sur un point particulier. C'est les conditions pour partager le repas de Sainte-Cène. Il y en a qui se lèvent, d'autres qui ne se lèvent pas. Ça ne nous regarde pas, ça nous regarde nous-mêmes, pour différentes raisons. Et il n'est pas à faire la police ou la gendarmerie pour dire « toi tu te lèves, toi tu te lèves pas, tu restes assis, etc. etc. » On va en parler. Condition pour y participer. La condition pour y participer, c'est une question d'éthique de la vie chrétienne régénérée. D'abord, pour participer à la Sainte-Cène, il faut être né de nouveau. C'est pas parce que j'ai été baptisé, j'avais 8 jours, je m'en souviens bien. Oui, mais bon, il y a de la mémoire hein, quand même. Hein. La mémoire vive, c'est comme sur les ordinateurs. Hein. Être né de nouveau, ceux qui ont partagé pour la première fois le repas du Seigneur étaient les 12 apôtres, les disciples de Jésus. Dans sa définition biblique, le disciple du Christ, c'est premièrement une femme ou un homme, peu importe, qui s'est converti après avoir entendu l'évangile. Vous comprenez? Entendu l'évangile. C'est pas un baptême religieux, c'est pas, voilà, je fais partie d'une tradition religieuse, soi-disant chrétienne, etc. C'est pas ça. Converti, après avoir entendu l'évangile, qui s'est repenti de ses péchés, qui a la foi en Dieu, et dont l'action du Saint-Esprit l'a fait naître de nouveau. Ça va comme définition? Important. On a l'histoire de Nicodème, qui vient, qui s'approche de Jésus, et il va entendre des choses, il lui dira, Jésus dira à Nicodème, mais Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais ça présuppose, d'abord d'entendre l'évangile, il est venu entendre Jésus, hein. Ensuite, croire que Jésus est sauveur et Seigneur, et ensuite, accepter Jésus, se convertir, et après naître de nouveau par l'Esprit de Dieu. Il faut être, et il devient à ce moment-là, un enfant de Dieu pour prendre part au repas de Sainte-Cène. Maintenant, ceux qui prennent le repas de Sainte-Cène, et qui n'en ont pas tout à fait conscience, c'est pas à moi de les juger, vous comprenez ce que je veux dire? Pas à moi. Toi, tu restes assis parce que, bon, on ne connaît pas, etc. C'est pas à moi de le faire. Ça m'est arrivé en tant que jeune pasteur de le faire. Je m'en mords les doigts encore aujourd'hui. Parce que qui suis-je pour juger la conscience des autres? Être baptisé par immersion. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, vous connaissez cette parole. Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est important ça. Jésus nous explique comment faire de toutes les nations des disciples en les baptisant et en les enseignant dans tout ce qui concerne le message de Christ et de l'Évangile. Et nous voulons le dire encore, c'est que le repas du Seigneur a été partagé avec ses disciples parce qu'eux-mêmes ont été baptisés, certainement. Peut-être par Jean-Baptiste, je ne sais pas, ou par Jésus lui-même, je ne sais pas, Jésus ne baptisait pas de toute façon, hein, quoi qu'il en soit. Parce qu'il faut accomplir ce qui est juste, donc le baptême par immersion, c'est pas une cérémonie, c'est pas une formalité, mais c'est un engagement personnel de dire maintenant, j'obéis au Seigneur qui m'a sauvé, et je veux le confesser publiquement que je suis, eh bien que j'appartiens à Jésus-Christ et qu'il est mon sauveur. Baptême d'eau, pas un baptême d'enfant, on va pas revenir sur ces questions-là, on en a tellement parlé, et c'est fini tout ça. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est pour ça que j'ai parlé d'éthique de la vie chrétienne, c'est que pour prendre la Sainte-Cène, il faut marcher d'une manière digne de l'Évangile. Alors chacun a sa petite raison, chacun a sa façon d'évaluer les choses. C'est-à-dire vivre dans la sanctification ou la régénération, être né de nouveau, dans une vie de renouvellement, en discernant le corps du Seigneur quand je prends la Sainte-Cène. Je prends pas la Sainte-Cène parce que c'est une habitude, voilà. Mais de dire je prends la Sainte-Cène, on a besoin de s'en souvenir, hein, parce que qu'on est tellement pris par toutes sortes de pensées, toutes sortes de préoccupations, de dire, eh bien, je prends la Sainte-Cène parce que je veux vraiment être conscient que Jésus est mort pour moi. et qu'il a versé son sang. C'est pas toujours facile dans notre monde où nous sommes tellement pris. Et je discerne finalement le corps de Jésus à travers son exemple, à travers sa sainteté, à travers sa mort pour mes péchés personnels, sa victoire à la croix, et pour nous en libérer. Parce que la Sainte-Seine, c'est pas un jugement. La Sainte-Seine, c'est avant tout un affranchissement, plus de liberté pour chacun d'entre nous, et notamment par rapport à nos péchés. Parce que nous restons encore des pécheurs, faut pas se faire d'illusions. À travers les tentations, à travers les résolutions que j'ai prises mais que je n'arrive pas à tenir, parce que je suis faible. Ouais. Et le repas de Sainte-Seine me donne justement précisément dans ma faiblesse, dans mon insignifiance, dans ce que je suis tellement faible de volonté. À chaque fois, le Seigneur me renouvelle, finalement, non pas à baisser les bras, comme ça nous a été dit dans les chants, c'est pas fuir, hein, mais au contraire, c'est approcher en demandant au Seigneur, donne-moi la force que je n'ai pas. Parce que si je me sens fort, ça ne sert à rien. Mais si je me sens faible, je m'appuie sur le Seigneur. Et le repas de Sainte-Seine, c'est une nourriture spirituelle qui me donne la force d'être ce que lui veut. Et non pas être un pharisien, non pas être un légaliste. J'y arriverai, vous verrez, je suis supérieur aux autres. C'est de la folie. Ça, c'est une parole du diable. Non, Seigneur, je viens humblement, modestement, et j'ai vraiment besoin de toi parce que je me sens tellement incapable de faire ta volonté. Comprenez ça? Ah oui. Alors, ça doit être pris dans un esprit de repentance, de modestie et d'humilité pour s'examiner soi-même. S'il y a une véritable vie consacrée, nous mangeons et buvons finalement non pas un jugement, mais une grâce et une bénédiction. La Sainte-Seine est le symbole de l'unité de l'Église. Et ça me fait dire que quand il y a des dissensions entre nous, quand il y a des frères et des sœurs qui n'arrivent pas à s'entendre, qui n'arrivent pas à se pardonner, des couples qui, finalement, eh bien là, se méprisent, qui n'arrivent pas à s'accorder, qui après avoir commencé par l'amour finissent par le ressentiment et la haine, n'arrivent pas à se pardonner. Je parle des couples, puis des autres. Alors à ce moment-là, qu'ils s'examinent soi-même, hein. C'est l'autre, c'est pas moi, la faute de l'autre, c'est toujours la faute de l'autre. Il y a des choses qui se passent dans nos églises parce que ce sont des sociétés humaines. Attendez, hein, on n'est pas encore dans les paliers royaux célestes, hein. Mais de dire, eh bien Seigneur, vraiment, avant de prendre la Sainte-Seine, il faut que je m'accorde. Mais Jésus le dira dans le sermon sur le mont, va t'accorder avec ta partie adverse, et puis fais un consensus pour arriver à dire, eh bien voilà, je te pardonne. Et vous d'accepter le pardon quand l'autre vous présente finalement, eh bien, ses excuses. Et de ne pas continuer comme ça pendant des années, des années, des années. Il y a une délivrance à travers cela. Il changera notre cœur de pierre, il mettra un cœur de chair par son esprit. Le fait que nous partageons le même pain doit nous rappeler que nous faisons partie du même corps. Le corps de Christ, il est uni, il est en paix. Normalement, c'est comme ça, c'est vrai. Je culpabilise personne, mais il faut qu'il y ait réparation. Non pas du bricolage et du rabibochage entre nous, mais vraiment que ce soit l'esprit qui répare et qui guérisse nos cœurs, qui ont été piétinés par les uns, par les autres. Vous savez, on en a vu, hein. Ça fait 45 ans que nous sommes dans le ministère, je peux vous dire qu'on en a vu des drôles, hein. Franchement, hein. Et il y a des frères et des sœurs qui ne sont plus là aujourd'hui parce qu'ils ont été dégoûtés. Moi, ça me fait mal quand je vois ça. Et des belles âmes. Parce qu'on a été au bulldozer, on a dit, voilà, c'est comme ça, ceci et cela. Mais où est l'esprit de l'Évangile dans cette affaire? Où est l'esprit de la grâce, ce Dieu qui nous a fait grâce? Alors, si nous avons eu la grâce, nous devons faire grâce aux autres, sans vouloir tomber dans une attitude une attitude béate, en disant, c'est angélique, c'est formidable, on est déjà au ciel. Non, c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'il faut pas voir la vérité, hein. Il faut pas juger selon les apparences. Donc, l'Église de Christ est unie, elle est en paix, entre nous, et avec tous. Eh oui, on n'a pas tous le même caractère, on n'a pas tous les mêmes vues. Mais justement, cette mosaïque que Dieu a fait, qu'il appelle l'Église, heureusement qu'on est différents. Heureusement qu'on n'est pas là dans un casernement avec tous le même habit, la même pensée, etc., etc. Chacun a son histoire et il va vivre sa foi avec son histoire. C'est formidable ça, hein. C'est bien, imaginez-vous qu'on soit tous habillés à la Mao, là, hein, avec le col rond, etc., etc. Ben, c'est ce que font les religions, d'ailleurs, hein. Dans les ordres différents religieux, ils sont tous habillés de la même manière. Il n'y a que le supérieur qui a peut-être un habit différent. Dans l'armée, c'est la même chose. Mais nous, c'est pas du corporatisme. C'est pas du communautarisme. Nous restons différents, mais nous vivons, finalement, unis d'un même cœur, une même pensée, d'un même esprit, en Jésus-Christ. Messieurs, vous aurez tous la même cravate dimanche prochain. Vous allez voir quand je vous... Remarquez-la bien. Et si vous venez pas, vous prenez pas la Sainte-Seine, hein. Enfin, je trouve les exemples où je peux les trouver. C'est un principe essentiel, mes frères et sœurs. Quand, par exemple, dans Hébreux, il nous est donné ça, parce que ça touche, hein, quelque chose de très, très important. Il nous est dit, Hébreux, efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte avec tout le monde, ça commence déjà par nous. Car, sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Sans la sanctification, si vous voulez que je traduise, ne verra le Seigneur. Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu. Que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, traduction moderne, hein, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens et qui empoisonne les églises. Qu'aucun de vous ne soit immoral, que personne ne méprise les choses sacrées. Et là, nous avons quelque chose, j'oserais peut-être pas dire sacré, mais quelque chose d'une grande importance, quelque chose d'essentiel dans la vie des chrétiens, c'est le repas de Sainte-Seine. La Sainte-Seine ne tolère pas le péché, et pourtant nous restons des pécheurs. Et moi je vous encourage à venir encore prendre la Sainte-Seine, même parce que vous avez péché cette semaine. Qui n'a pas péché cette semaine ? D'un pouce. Ben, je peux vous dire qu'on est tous à partir la tête basse. Mais il ne tolère pas l'état de péché. Je parle pas des chutes. Les chutes, ça arrive à tout le monde. Mais l'état de péché, c'est un état qui peut durer des mois, des années, etc. La Sainte-Seine ne tolère pas la légèreté de dire « Oh, je prends la Sainte-Seine pour faire comme tout le monde ». La négligence, en oubliant que nous devons penser que ce que nous faisons, c'est quelque chose d'une grande importance. Elle ne s'associe pas avec un état ou un sentiment émotionnel de passage. « Ah, tiens, ce matin, je prends la Sainte-Seine parce que je suis bien. » Ça va? Vous êtes bien? Bon. C'est pas émotionnel. Tout simplement. Ou encore une habitude traditionnelle, parce qu'on le fait, et bien on le fait parce que bon, si les autres nous voient qu'on le fait pas, ils vont penser qu'on n'est pas bien. Eh ben tant pis. Voilà. Dans une attitude religieuse, non. Je le dis encore ce matin, ce n'est pas une démarche religieuse ou une démarche superstitieuse. J'ai vu dans les communautés où j'ai été auparavant qu'il y avait des gens qui venaient. Vous savez, les Corinthiens, quand ils s'étaient à table, ils nous ont dit qu'ils étaient ivres quelquefois. Hein. Alors, certains viennent avec une manière superstitieuse en disant « si je prends pas la Sainte-Seine, je suis perdu ». On n'est pas dans l'occultisme ici, non? Faisons attention à ça. Je veux la bénédiction à tout prix, je prends la Sainte-Seine. Ben, si on la prend avec une mauvaise conscience, c'est pas la peine. On pourrait peut-être donner une première conclusion. La Sainte-Seine, c'est croire que Jésus est mort personnellement pour chacun d'abord, avant de croire qu'il est mort pour tout le monde. Que nous sommes sauvés par sa grâce, par le moyen de la foi. Je remets les choses basiques. C'est s'en souvenir, c'est proclamer et c'est confesser devant tous que vraiment Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. C'est un rappel de ses enseignements. Enseigne-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et dans les prescriptions, il y a le baptême d'eau et il y a le repas de Sainte-Seine, entre autres dans l'essentiel. La Sainte-Seine, c'est une bénédiction attachée, finalement, pour chacun d'entre nous. Et cette bénédiction, elle se décline sous différents aspects. C'est pardonner. C'est se réconcilier les uns avec les autres et se réconcilier avec Dieu s'il y a eu quelques petits différends. C'est une promesse de vie éternelle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Mais comme Jésus nous dit qu'il y a plusieurs demeures et qu'il vient et qu'il revient pour la vie éternelle, alors à ce moment-là, je crois que Jésus me donne la vie éternelle. Et ça m'est rappelé à ce moment-là. Dans la Sainte Cène, il y a la promesse de la guérison divine, physique, morale. C'est dans ces meurtrissures, c'est quand même le mort de Jésus, hein, c'est le pain et le vin. C'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mes frères et sœurs qui êtes malades, vous pouvez prendre le repas de Sainte Cène. En prenant le repas de Sainte Cène, vous pouvez trouver la guérison. Par-delà l'imposition des mains, par-delà l'onction d'huile, etc. C'est un moyen parmi les autres. Combien nous avons entendu de frères et de sœurs en disant qu'ils sont venus, qu'ils n'ont rien dit à personne, mais qu'ils sont venus avec un fardeau, avec une souffrance, avec une douleur terrible, et qui en prenant la Sainte Cène sont venus nous voir en disant « Mais j'ai pris la victoire avec le Seigneur au moment de partager le pain et le vin. » C'est pour vous, pour chacun d'entre nous, pour moi aussi. Et puis, la Sainte Cène, c'est une promesse de délivrance, délivrance du péché, délivrance du mal qui nous assaille. Dans le psaume 116, il est dit ceci, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» dit le psalmiste. Alors il dit, « J'élèverai la coupe des délivrances. » C'est beau, moi je trouve que c'est extraordinaire. « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel en présence de son peuple. » Vous êtes le peuple de Dieu et nous pouvons élever la coupe tous ensemble et nous pouvons croire que la délivrance, elle est pour nous. Vous voulez? Eh bien, nous le souhaitons et nous l'avons à travers tout cela. Et puis, je voudrais simplement terminer pour bien marquer les choses. Alors, je ne voudrais pas faire violence à l'éducation que nous avons reçue les uns et les autres, hein, parce que moi, je me souviens que je n'étais pas éduqué évangélique, hein, moins qu'on puisse dire. Mais toujours est-il que nous, on a parlé de la Sainte Cène ce matin. Et dans la généralité des religions chrétiennes, celles que nous connaissons bien, on parle de l'Eucharistie. Alors, je voudrais, sans choquer la conscience, c'est le jour et la nuit. J'aurais vécu au XVIe siècle, on m'aurait coupé la tête pour ce que je viens de dire. Ah, mais ça c'est sûr, hein. Ah, bah ça c'est clair, hein. Je finissais à ramer sur une galère. Je suis un champion d'aviron. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, comprenez-le comme ça, et vraiment, sincèrement, et je ne me moque pas, mais c'est terrible d'induire les gens en erreur et d'en faire des légendes et des contes. La parole de Dieu est la vérité. Le terme que je viens de citer, c'est une ineptie. C'est une altération. Faux en écriture et usage de faux. Vous savez que ça nous mène en correctionnel, ça, hein, dans le monde des hommes, hein. C'est une dénaturation, une contrefaçon du sens biblique, évangélique, de ce que Jésus nous a enseigné. Ce que Jésus nous a enseigné, c'est ce que je vous ai rappelé à travers cette heure que nous avons passée ensemble. Jésus nous dit, faites ceci en mémoire de moi. L'Eucharistie, c'est le sacrifice de la messe. C'est la consécration de l'hostie qui n'est donné aux fidèles, mais sans le vin. Sinon, le prêtre. D'accord? Jésus dit, celui qui mange mon corps et celui qui boit mon sang, celui qui prend le pain et qui prend le vin, donc c'est déjà une séparation. On le sait. Hein, c'est la consécration de l'hostie d'une manière assez magique, très cérémonielle. Vous vous en souvenez, hein? Bon, pour les enfants qui sont nés dans le monde évangélique, vous ne savez pas ce que c'est, mais vous avez besoin de savoir ce que c'est. C'est changer la nature même du pain en corps de Christ et du vin en sang de Jésus. C'est ramener, invoquer la divinité de Jésus sur les espèces qu'est le pain et le vin. Jésus s'est fait homme. Jésus est remonté au ciel, il était divin avant, il est divin, et c'est pas la peine de le faire redescendre sur la terre. Hein. Je crois que Paul le dit dans Éphésiens. Hein. Il l'explique. C'est un changement de substance, c'est-à-dire que pour le catholique, peut-être pour l'orthodoxe, je suppose, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a cette ostension, cette présentation, cette consécration de l'hostie, eh bien, le croyant à ce moment-là considère que Christ est vraiment dans le pain et que son sang, que le vin et son sang. C'est un changement de matière, c'est un changement, comme j'ai dit, de substance. C'est ce qu'on appelle en théologie la consubstantiation. Vous en rappellerez parce que c'est simple. C'est le corps mystique de Jésus qui descend. Voilà. Jésus a bien dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est pas une question de transformer les éléments ou les espèces. C'est une question de mémoire, de souvenir. Ceci représente mon corps et non pas ceci est mon corps. Jésus a dit, ceci représente, c'est le symbole de mon corps et de mon sang. Il n'a pas dit, ceci est mon corps. Il a dit, représente. C'est la différence. Hein. C'est la doctrine erronée de la présence réelle de Christ dans l'hostie, ou supposée réelle. Alors, je vais aller un peu plus loin, mais très bref, hein, parce que c'est de l'histoire, et j'aime bien l'histoire, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. C'est une invention mentale qui n'existait pas pendant les premiers siècles, pendant à peu près 1200 ans du christianisme, entre la résurrection de Jésus et cet événement, une invention mentale d'un homme qui s'appelait Parchaz Redbert. C'était un Français, il vivait au 9e siècle, donc c'était à la fin du premier millénaire, et nous savons qu'il a inventé finalement cette transsubstantiation, changement de nature. Et la polémique a duré dans l'Église chrétienne pendant 4 siècles, jusqu'en 1300 de notre ère, et qui a été adoptée par un concile, finalement, dans ces années 1400, 1300, 1400. Donc, tout a été travesti comme le baptême. Du temps de Jésus, on baptisait pas les enfants. Et après, c'est venu avec la tradition des théologiens, etc. La Sainte Cène, c'était la même chose. Mais pendant à peu près 12 à 13 siècles, mais les chrétiens de cette époque, même y compris les chrétiens de l'Église catholique, croyaient que finalement, c'était « faites ceci en mémoire de moi » et non pas le pain et le vin et ma présence réelle, tout simplement. Jésus à la croix a déclaré « tout est accompli ». Alors, tout est accompli. Pourquoi le prêtre, à chaque célébration du sacrifice de la messe, fait-il finalement descendre le Christ dans l'hostie pour la consacrer comme un état réel dans le pain et dans le vin? C'est magique. Tout ce que l'on peut dire, c'est magique. Et ce que Jésus nous a enseigné, c'est spirituel. Je vais vous en donner la preuve maintenant. Ça n'a rien à voir. Faites ceci en mémoire de moi. Il s'agit d'une commémoration chez les chrétiens évangéliques, protestants, une commémoration, un souvenir, la mémoire et non un acte sacrificiel. Le prêtre fait un acte sacrificiel. Il crucifie encore Jésus, et à chaque fois qu'il y a la messe. Cette doctrine déviante n'est que la manière de perpétuer les sacrifices expiatoires de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Où il fallait des agneaux, il fallait des bœufs, on les sacrifiait, et pendant des siècles et des siècles, ce sont des millions et peut-être des milliers, des millions de d'animaux qui ont été sacrifiés comme ça. Mais quand Jésus nous dit, une fois pour toutes, il est mort à la croix, ça signifie que finalement on n'a pas besoin de le refaire. Hein. C'est une mémoire, c'est un souvenir tout simplement. Je finis dans le livre des Hébreux, il est dit ces paroles. C'est en vertu de cette volonté que Jésus s'est donnée, qu'il est venu sur la terre, et que nous sommes sanctifiés par l'offrande de son corps. Nous sommes mis à part parce que nous croyons à l'offrande de son corps, de son sacrifice. Une fois pour toutes, c'est pas la peine de refaire les choses. Ceci l'a fait une fois pour toutes, dit le texte. Il a paru une seule fois pour effacer les péchés. On n'a pas besoin de refaire et de refaire et de refaire. C'est pour vous dire que l'état de notre christianisme historique et traditionnel est bien loin maintenant de la parole de l'évangile. Et je finis dans Jean, chapitre 6. Vous savez que c'est passionnant ce que je suis en train de vous dire. Non, ça vous passionne peut-être pas, mais bon. Moi, je me suis régalé cette semaine. Et en tant que j'avais préparé un peu ce dossier et tout ça, je me dis, mais bon, on le savait ça, parce qu'on l'a vécu. Nous, on l'a vécu, on a été enseigné dans cette façon-là. Mais quand j'ai vu l'Évangile, eh bien, je suis passé, je pourrais dire, à une autre dimension de compréhension des choses. Je me dis, les hommes m'ont enseigné ça, mais la parole de Dieu m'a enseigné autre chose. Eureka ! Le Seigneur a ouvert les yeux de mon cœur. Et j'ai protesté. Alors, Jean 6, verset 60, il est donné cette parole. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Ah oui, c'est Jean, Jean 6, verset 60. Jésus dira que je retrouve. Bon, je vais vous le restituer de mémoire. Il y a une contestation quand Jésus a dit « Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang », les gens se sont révoltés, même parmi ses disciples, il y en a qui se sont même séparés. Et Jésus dira cette parole, il dira « Mais ce que je vous dis et sont des paroles de vie et d'esprit, esprit et vie ». Et ça, ça clôt le débat. Si on les prend d'une manière humaine, religieuse, tout ce que voudrait, on ne pourra jamais rien comprendre. Parce que on ne peut comprendre que ces grandes vérités essentielles de l'Évangile que si c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ qui nous les enseigne. Mes paroles sont esprit et vie. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et je vous remercie pour votre écoute qui a peut-être été un peu difficile. Hein, mais une chose qui est certaine, c'est que l'enseignement du repas de Sainte-Seine, c'est quelque chose d'important. Et nous allons partager le repas de Sainte-Seine maintenant en bénissant le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité, parce que nous croyons que ta parole est la vérité, que tu nous as dit la vérité et que nous n'avons pas besoin de chercher de droite et de gauche, courir le monde pour essayer de trouver en effet des explications à ceci et cela. Ta parole nous a tout dit, ce qui était nécessaire de croire, de recevoir et de vivre. Seigneur, moi je te remercie de ce que tu as dit à ceux qui ont entendu. Eh bien, Seigneur, les paroles que tu as données, tu nous as bien rappelé ce matin que le message de l'Évangile est esprit et il est vie. Alors, Seigneur, nous croyons que le monde à travers les siècles, à travers ses théologiens, à travers ses penseurs, à travers tous ces gens qui ont dénaturé, qui ont déformé la simplicité de l'Évangile, où tu le diras, Seigneur, aux pharisiens, vous avez changé les commandements de Dieu par vos traditions. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te demander que tu nous gardes fidèles à ta parole. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, peu importe. Mais il y a des choses, Seigneur, qui nous sont révélées par ton esprit, au fond de nous-mêmes, et nous préférons écouter la voix de Dieu que la voix des hommes. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te demander, moi je te demande, que dans cette étude ce matin, eh bien tu nous bénisses. Et c'est vrai que je veux m'approcher de toi. Je veux prendre le pain et le vin. Pardonne-moi si quelquefois je l'ai fait avec indifférence. Quelquefois je l'ai fait avec distraction. Je l'ai fait, Seigneur, pour montrer peut-être aux autres que je le fais. Mais Seigneur, donne-nous, Seigneur, dans l'Église, eh bien, de le faire d'une manière conséquente, de le faire d'une manière profonde, de le faire non pas parce que j'ai crainte et j'ai peur, parce que je tremble devant toi, mais je le fais par amour, parce que je sais que ton amour est bien supérieur à tout ce que je peux ressentir dans mon cœur. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, révèle-toi. Ta parole, la Sainte-Seine, elle nous guérit, elle nous libère, elle nous affranchit, elle nous donne la véritable liberté, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aide-nous à faire des progrès par rapport à notre façon de penser à la Sainte-Seine. Merci Jésus, parce qu'un jour, eh bien comme tu le dis, qu'en effet, nous partagerons les noces de l'agneau, et nous voulons croire que ce sera véritablement la scène céleste, les noces de l'agneau. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter D'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.